Ploum, et voici que débute une nouvelle semaine sous le signe de la danse, encore une, et puis c'est presque, j'allais dire la dernière, mais non, puisque le festival se poursuit en début de semaine prochaine pour se terminer le 7 juillet. Pas mal de spectacles au cours de ces 10 premiers jours de festival. Nous en avons vu quelques-uns, Vincent,
bonjour. Oui, bonjour, bonjour Manu.
Quelques-uns ensemble, quelques-uns séparément. On va en parler dans cette émission. On écoutera également une interview réalisée ce matin par Vincent Cavaroc, une interview de Fabrice Ramalingam que l'on pourra voir ce soir à l'Agora pour son spectacle Pandora's Box. Peut-être pour commencer, un petit retour sur Anne-Thérèse de Kersmaeker que l'on a vue
dans Rosas Dans Rosas, donc une pièce de 83 qui a été donnée au Théâtre des 13 Vents. Donc pour deux soirs, c'était vendredi soir et puis samedi soir, un coup à 20h, un coup à 22h. Alors moi j'ai assisté à la soirée de 20h et juste pour dire, alors toi tu y étais le samedi à 22h, Anne-Thérèse de Kersmaeker qui interprétait avec trois de ses danseuses la pièce était d'une humeur assez massacrante ce soir-là.
Il semblerait que ce soit chronique.
Ah, d'accord. Bon. Parce que... Et pour toi, ça allait.
Oui, ça allait. Enfin, disons qu'elle n'a pas manifesté plus que ça son mécontentement, mais en tout cas, elle n'avait pas l'air non plus très.
Alors, c'est anecdotique, mais il y a eu un petit souci pendant qu'elle a interprété cette danse, puisqu'elle a quitté ses danseuses à un moment du spectacle et elle est allée voir quelqu'un au premier rang. Elle est retournée danser et puis au moment du rappel, elle tirait une tranche de 3 km et elle est retournée voir cette personne qui a quitté ensuite son siège au bout de 30 secondes de manière assez rapide. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu personne de Montpellier danser, j'ai pas pu poser de questions, mais en tout cas ben, voilà. Ça c'était un peu l'atmosphère en dehors de la pièce en elle-même, donc qui est une pièce de 83. Donc autant dire eh bien que c'est une vieille pièce mais qui me semble-t-il n'a pas pris une ride qui était extrêmement novatrice quand elle l'a montée.
Et qu'il reste d'une certaine manière, avec cet effet de répétition, cet effet mécanique et presque industriel, aussi bien dans la musique que dans les mouvements répétés, parfois à l'unisson, parfois en canon.
En décalage, ouais. Y a quatre mouvements, enfin quatre placements différents. Ça commence au sol, alors ça commence très très lentement. Elles sont au sol, c'est à base de respiration, d'inspiration, de gestes. Enfin, assez simple en fait. Tout est simple finalement dans ces mouvements. Ensuite, elles font des choses avec des chaises. Ensuite, il y a un mouvement où elles sont debout. Et puis le quatrième mouvement, tiens, je l'ai perdu. Mais en tout cas,
Sont debout également.
Elles sont debout toujours, mais cette fois-ci en déplacement. Ouais. Donc parfois unissant. Alors, des mouvements très très simples, une mise en espace qui est extraordinaire. Parce que parfois elles sont ensemble, elles sont trois ensemble. Il y en a une qui décale, qui décroche un tout petit peu, mais qui retrouve le groupe quelques instants après avec les mêmes mouvements. Il y en a une autre qui décroche. Enfin, c'est à donner le tournis. C'est très très épuisant pour les danseuses.
On le voit à la fin du spectacle.
On le voit. Ça dure 1h40. Ouais. Enfin moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Alors l'avantage c'est que Anne-Thérèse de Kersmaeker a fait quelques vidéos en fait au moins un des mouvements de cette pièce, notamment avec les chaises. Alors je recommande à tout le monde, ceux qui n'ont pas assisté au spectacle de Anne-Thérèse de Kersmaeker, d'aller voir sur internet, de taper Rosas et de Kersmaeker et d'aller sur YouTube voir ce qu'il a été fait en vidéo autour de ces chaises pour avoir une idée de la chorégraphie extrêmement simple mais extrêmement travaillée en même temps. Et on a un petit son pour vous donner la mesure aussi parce que c'est un travail avec le son. Alors il faut, c'est le son Rosas en fait. Alors qu'on n'a pas forcément, mais qu'on aura bientôt. Ça va vraiment donner la mesure. Alors à noter que donc il y a cette musique qui arrive, qui est assez forte au début. Après, elle a tendance à s'atténuer. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que elles sont parfois à contre-temps parce qu'il y a la musique qui, enfin surtout vers la fin, qui se met à ralentir d'un coup, à repartir, ralentir, repartir.
Comme des hockey.
Voilà, c'est très très impressionnant, c'est très très physique. Et en même temps très très simple et voilà, c'est un travail à part.
Un côté très hypnotique dans cette répétition à la fois musicale et gestuelle qui peut parfois provoquer des endormissements. J'ai eu écho de gens qui ont trouvé ça très bien mais qui n'ont pas pu s'empêcher de fermer les yeux à certains moments.
On peut forcément décrocher parce que enfin effectivement tout est dans la répétition, donc c'est vrai qu'à un moment, surtout quand elles sont debout, enfin ça dure un certain temps. Après on peut parler des lumières qui sont extrêmement simples, un dispositif scénique sans décor. Au niveau des costumes, bah, c'est des choses très très simples parce qu'elles sont en chemise. En chemise, parfois, elle montre une épaule. Voilà. C'est un jeu sur la sensualité, sur l'innocence. C'est très très féminin. Enfin, c'est pas par hasard s'il y a quatre filles qui l'interprètent. Voilà, bah, je pense que ça peut parler aux femmes. Alors, à noter que Anne-Thérèse de Kersmaeker, pour tous ceux qui l'ont raté, eh bien, la pièce sera le 20 et 21 octobre, en fait, à la scène de Nîmes, au théâtre de Nîmes. Voilà, parce qu'elle a fait une tournée. Alors, je suppose qu'elle ne sera pas parmi ses danseuses à Nîmes. Là, elle a fait l'effort, je crois, pour les 30 ans de Montpellier Danse. C'est peut-être pas plus mal, en fait, qu'elle ne soit pas à Nîmes la prochaine fois, parce que elle tenait le rythme, si on voulait, mais elle ne poussait pas ses gestes, en fait, contrairement à ses autres danseuses, absolument, notamment une qui était vraiment excellente et qui bien mettait en avant cette sensualité. Il y avait une chinoise aussi qui était peut-être un peu en retrait des autres. Enfin, et Thérèse de Kersmaeker, en tout cas, était peut-être un petit cran en dessous, mais bon, voilà, c'était quand même très symbolique de la retrouver.
Elle reste quand même assez directive sur le plateau, puisqu'on l'entend régulièrement exhorter ces danseuses dans leurs gestes et peut-être même parfois leur donner des indications sur les gestes à effectuer ou ce genre de choses. Anne-Thérèse de Kersmaeker, donc, qu'on pourra retrouver cette saison à Nîmes, tout comme Alain Buffard, qui sera également, puisqu'il était en résidence au théâtre de Nîmes. Et puis peut-être que d'ici quelques petites secondes, le temps de mettre la clé USB à l'endroit voulu, ce petit son sera audible. Dans quelques instants également, on écoutera une interview recueillie ce matin par Vincent Carvaroc. Interview de Fabrice Ramalingom, un chorégraphe montpelliérain, mais aussi international, puisqu'il se partage entre différentes villes du monde et qu'il travaille aussi bien ici qu'ailleurs. Et puis c'est Pandora's Box, sa nouvelle création, qu'il présente lors de cette 30e édition de Montpellier Danse à Montpellier. Tiens, un petit son de Anne-Thérèse de Kersmaeker tout de suite.
À noter, voilà, donc ça c'est le son de la vidéo, on sent le travail sur la musique, tout dans la répétition. Donc ça concerne la chorégraphie sur les chaises, donc que vous pouvez trouver sur YouTube, vous tapez Rosas notamment ou de Kersmaeker et vous y arriverez. Donc c'est un travail essentiellement donc de vidéo qui a moins de rapport avec la chorégraphie. Quand on la voit dans son ensemble, la chorégraphie, ça donne quand même autre chose.
Avec la musique donc de Thierry Demey et Peter Vermersch, fort réussi, voilà. Musique assez répétitive. Qu'avons-nous vu d'autre au cours des jours passés dans le cadre de ce festival ?
Eh bien, la Batsheva, quand même, qui a fait ça le comble au Quorum, c'était ce samedi, c'était à 20h avec une pièce très courte, c'est une heure pile poil, hein, quasiment. Alors, c'est une troupe israélienne. Le chorégraphe, c'est Ona Harin, voilà, j'ai toujours du mal. Et donc, des danseurs que moi j'ai trouvé absolument exceptionnels, très techniques, qui là, pour le coup, poussent les mouvements jusqu'au bout. Alors après, des mouvements d'ensemble, c'est ce qui était intéressant, ils étaient 10 sur scène.
Hein,
11. Oui, il y avait une fille à chaque fois qui se retrouvait sur le côté quand il s'agissait de faire... des duos. Alors très peu de duos en même temps. Là, une bande son assez étonnante, hein, avec une espèce de synthé des moins, années 80. Alors avec des reprises pourtant de grands morceaux. Il y avait Richard Strauss, donc qu'on retrouvait la fameuse musique Ainsi par les Zarathoustra qui est reprise dans le film de Stanley Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y avait aussi Star Wars.
John Williams, oui.
De John Williams, ouais. Voilà, donc totalement inattendu. Alors on se dit, bah, quand on écoute Strauss, il a voulu prendre Strauss en lui-même, mais non, pas du tout. Enfin, je pense qu'il a fait référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, ouais. Puisqu'après, eh bien, il fait référence à un autre film, Apocalypse Now, avec la Valkyrie de Wagner.
Voilà.
Étonnant, étonnante partition musicale en tout cas. Et moi, j'ai pas suivi le fil de propos d'ailleurs. Enfin, dans ses intentions, hein, il ne mettait pas grand-chose, si ce n'est que tout avait été montré, que la création c'était du mensonge, mais qu'on pouvait s'en accommoder. Et j'ai l'impression que ça se voit beaucoup, parce que finalement, il fait des propositions comme ça, mais moi, j'ai eu du mal à trouver le fil, en fait, entre tout ça.
Moi, je ne l'ai pas trouvé du tout, je dois bien le reconnaître, et je me suis un peu ennuyé, et je le reconnais également. C'était juste avant Anne-Thérèse de Kersmaker, et du coup, ça m'a fait un peu de bien de voir quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus incarné, je vais dire, voilà. que cette danse-là.
Kersmaker très minimaliste, finalement, très peu de mouvement, contrairement... Enfin, là, c'était l'inverse avec la Batsheva, enfin, avec des danseurs vraiment très, très forts, tous jeunes, hein, je crois qu'ils avaient entre 20 et 25 ans, pas plus. Et voilà, bon, ce qui pouvait être beau, c'était quand même ça, avec, là aussi, une mise en scène minimaliste, hein, juste un fond vert, une espèce de boîte très aseptisée, avec un banc au fond... très peu de lumière finalement, très peu de mise en scène, donc c'était tout pour la danse. Voilà. Donc après, soit on accroche effectivement, soit on n'accroche pas.
Passons à Fabrice Ramalingam qui présente ce soir Pandora Box. C'est une création. Il sera accompagné par DJ Chloé, DJette parisienne fort connue. Et c'est ce soir au théâtre de l'Agora. Vincent Cavaroc l'a rencontré ce matin. On l'écoute.
Fabrice Ramalingam, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte de Pandore ?
Dans cette boîte-là, dans la boîte noire qui s'ouvre, on va trouver des espaces sensitifs, perceptifs. On va beaucoup rêver, en fait. Mais ça va être le travail du spectateur. Nous, on ouvre, et c'est le travail du spectateur, d'être curieux, d'être Pandore. Nous, on ouvre la boîte, et le spectateur est Pandore.
On ouvre et les interprètes apparaissent, disparaissent. Il y a un vrai travail sur l'idée de la fin.
Oui, depuis mes dernières pièces, je m'aperçois en fait que je travaille beaucoup la disparition et bon, qui serait peut-être une métaphore de la fin. Donc du coup, j'y suis allé franco sur celle-là, quoi, sur cette pièce-là. Donc c'est vraiment un travail. Sur la fin, et pendant que je faisais justement ce travail-là sur la fin, il y a un de mes meilleurs amis qui est mort. Donc voilà, c'est vraiment en lien direct avec ce que j'ai vécu à ce moment-là aussi.
Tu évoques dans ton texte le rapport aux vanités, qui oui. est un moyen justement de parler de la fin et de la finitude des choses.
Oui, et aussi donc le d'être dans le présent. Ça c'est vraiment ce qui est dans la danse. Le travail de la danse, c'est être au présent. Donc ça va complètement avec l'histoire de la vanité, c'est-à-dire se décharger de tout ce qui est superflu ou sur lesquels... se décharger du avoir pour être.
En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a tout un truc autour de la vanité. Il y a cette grande expo Musée Mayol qui a fait beaucoup de bruit, qui allait de Damien Hirst à des figures du 17e, du 16e. C'est quoi, la société appelle ça en ce moment ? Quelque chose, on sent qu'une page se tourne ?
Plusieurs choses, il y a tout ce qu'on entend sur le bling-bling, comme on dit, sur la chose où il faut se montrer, il faut montrer ses richesses, etc. Voilà, il y a un retour à ça depuis quelques années, surtout avec Sarkozy et sa charmante épouse Carla Bruni, c'est du show, quoi. Donc bon, moi j'ai pas connu ça depuis que je suis né, un président qui est autant dans le paraître. Donc il y a ça, et du coup ça renvoie à tout ce qui est sur le paraître dans notre société, qui nous est pas nécessaire. Donc peut-être c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui on s'intéresse à pourquoi paraître alors qu'on va finir, et peut-être revenons à des choses plus essentielles. Enfin, je pense que c'est ça, hein, mais c'est une analyse un peu rapide et un peu superficielle.
Il y a un choix musical qui est assez important dans cette pièce. Tu as voulu travailler avec DJ Chloé, quelqu'un qui ne vient pas spécifiquement du spectacle vivant, mais qui régulièrement fait des petites bifurcations dans d'autres milieux. Comment s'est fait la rencontre et comment s'est passé le processus de travail ?
Alors avec Chloé, j'ai déjà travaillé avec Chloé en fait sur mon solo au commencement. C'était mon premier solo que j'ai fait en 2007 et que j'ai présenté ici à Montpellier au festival Montpellier Danse en 2007. Tout simplement parce que on partage le même bureau à Paris. Donc du coup on se croisait régulièrement, du coup on s'est montré un peu ce qu'on faisait et du coup on a eu envie de travailler ensemble. Ça c'est la chose la plus simple, rencontrer les gens et avoir envie. D'autre part, moi je viens quand même de mon enfance, mon adolescence et en tant que jeune adulte, c'était quand même dans les boîtes de nuit. Donc la techno, l'électro, le disco avant, j'ai un attachement profond à ces moments-là. À ces moments-là, cette musique-là, à ce que ça véhiculait, puisque c'était aussi le moment où... Alors là, je reviens au thème de la disparition. C'était aussi le moment où il y avait la série de gens qui partaient avec le sida, qui mouraient avec le sida, et que finalement, il y avait une espèce de force qui se déployait dans les boîtes de nuit à ce moment-là. On dansait pour exister. Et c'est lié vraiment à la musique aussi qui emmenait ce rythme-là. Donc il y a... Voilà, oui, il y a ça. Il y a ce rapport à la disparition, mais il y a aussi ce rapport-là à être vivant, exister, danser, la joie. Et puis peut-être... Mais pour Chloé, là, j'ai travaillé différemment. C'est-à-dire que puisqu'on travaille sur la disparition, dans le temps de la disparition, c'est peut-être le thème le plus précis de la pièce, et dans le temps de la disparition, certaines choses apparaissent. Donc là, je reviens aussi à cet ami qui est mort il n'y a pas très longtemps. On savait qu'il allait mourir, et donc les petits moments, les tout petits moments, les sourires, les regards devenaient de plus en plus précieux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. On sait que ça va finir, on le sent, et tout d'un coup, les petites choses apparaissent et deviennent de plus en plus précieuses. Avec Chloé, c'est ça. On envoie du DJ Chloé dès le début, et au fur et à mesure, ça disparaît, et autre chose surgit. Et c'est son rôle de compositrice qu'on connaît moins, qui est plus caché. Donc c'est ça aussi que j'avais envie de faire apparaître.
Le festival a 30 ans, ton histoire par rapport au festival est aussi assez longue et a connu des strates très diverses.
Ouais, moi j'ai connu le festival Montpellier Danse je suis arrivé à Montpellier en 88 et j'y ai dansé en 89 avec Bagoué. J'y ai redansé en 90. Et à l'époque, le centre chorégraphique donc, dirigé par Bagoué était très lié au Festival Montpellier Danse et Jean-Paul Montanari. Donc il y avait une proximité très, très forte à ce moment-là. Ensuite, moi, quand je suis devenu chorégraphe avec une compagnie indépendante, le rapport avec le festival était plus distendu. Il fallait que je fasse mes preuves et c'était effectivement... un rapport où on se voyait moins, quoi. Là, il y a une autre chose qui se passe, c'est effectivement Jean-Paul cherchait comment travailler à l'Agora, et moi, je lui ai proposé mes services. C'est moi qui suis allé le voir et qui lui ai dit, voilà, moi, je veux bien travailler sur l'Agora avec toi. Donc, c'est vraiment des rapports très différents tout au long de ces 20 ans pour moi.
Dans son livre rétrospectif sur les 30 années du festival, le livre qui vient de sortir chez Actes Sud, il parle, il le découpe en trois parties, les années Bagoué, les années Montanari, les années Monnier. Trois esthétiques, trois rapports à la danse. Finalement, tu es un fil rouge, tu as traversé ces trois périodes.
Ouais. Ouais, et puis c'est drôle parce que en étant dedans, en étant dehors, en étant spectateur aussi, en étant acteur, en étant contre, je pense là à 2003. Et j'étais très ferme sur ça, par rapport aux autres danseurs ou par rapport à l'équipe avec laquelle je travaillais à ce moment-là, qui était changement de propriétaire. Je pense que j'étais le plus revendicatif. Donc voilà, c'est oui, le fil rouge, où c'est la position n'est jamais la même, toujours à sans arrêt négocier. Mais négocier sa position, c'est aussi être libre. C'est-à-dire, c'est là la liberté. C'est toujours se trouver une position qui est en adéquation avec ce qu'on est et pouvoir la tenir.
Tu l'évoquais très rapidement, cette idée qu'un nouveau volet de collaboration s'offre à toi via l'Agora. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
C'est un peu compliqué parce que le fait qu'il y ait les 30 ans du festival, toute l'énergie se focalise là. On a lancé quelques pistes sur cet espace de résidence qui va être l'Agora, mais le vrai travail, ça va se faire à partir de là, après les 30 ans du festival.
Ta première est ce soir, t'es serein, tu es comment? Est-ce que
Je suis à la fois serein, je suis confiant, je suis oui, confiant parce que l'équipe est belle, parce que les danseurs sont magnifiques, parce que Chloé a fait du travail incroyable, parce que tous les gens qui m'entourent autour, qui sont dans l'ombre, ils sont super forts, super présents, super, voilà, ils nous soutiennent, c'est vraiment formidable. Maintenant, je vois qu'il manque de temps. J'ai fait un travail sur cette semaine. C'est peu pour une grosse création comme ça. C'est ma première grosse création, en fait. Donc voilà, puis je suis dedans, dehors, donc c'est difficile. Déjà, j'ai vu hier à la générale, bon, la pièce se tient, mais il y a encore des choses que j'aimerais retravailler, déjà. Enfin, de toute façon, je retravaille mes pièces sans arrêt, donc.
Bon, là, quelques heures de la création, on va te laisser peut-être aller retravailler, justement.
Ouais, merci.
Merci. Merci, et merci aussi à Vincent Cavaroc pour cette interview. Fabrice Ramalingom, donc, c'est ce soir à l'Agora, au Théâtre de l'Agora, donc le nouveau théâtre de plein air fraîchement rénové. Et nous avons une place à vous faire gagner pour ce spectacle. Il vous suffit pour cela de nous appeler au 04 67 66 33 33, 04 67 66 33 33. Avant de se quitter, peut-être deux petits mots sur d'autres spectacles vus. Je ne me souviens plus si nous avons parlé de Kaderatou, si on a parlé, on a diffusé une interview,
C'était effectivement avant, parce qu'on avait eu une petite interview avec Kaderatou qui s'est montré extrêmement disponible. À noter d'ailleurs que je prépare un portrait d'une heure sur Kaderatou. Donc qui sera disponible, mais peut-être j'attends la rentrée pour le diffuser, mais ce sera toujours possible de l'écouter puisque bah, il avait plein de choses à dire, il était disponible, j'ai pu le voir pendant une heure, donc voilà.
Et sa pièce au nom imprononçable était tout à fait
Symphonia
Piesni
Djanovic. Voilà, symphonie des chants plaintifs, troisième symphonie
de Gorecki,
donc eh bien qui est un compositeur polonais. Alors c'est une symphonie créée en 1973, donc une vieille symphonie. Il se trouve que quand Kaderatou avait 20 ans, il a écouté cette symphonie, il a été complètement subjugué par cette symphonie. Alors, sachant que Kaderatou fait davantage dans le hip-hop, hein, il a rencontré le hip-hop en écoutant les émissions de Sydney, les premières émissions de Sydney sur Antenne 2. Donc après, bah, il s'est lancé dans le hip-hop, il a inventé des choses, donc il a fait tout un tas de pièces relativement différentes. C'est jamais les mêmes spectacles, et il s'est retrouvé eh bien à la tête du centre de danse de La Rochelle. Alors peut-être que ce statut lui a permis de tenter ça, c'est-à-dire de proposer du hip-hop avec une partition classique qu'on écoute en fond. Donc c'est un chant très très doux, plaintif, hein, très triste, avec des danseurs. Alors c'est pas du hip-hop exubérant, hein, c'est beaucoup de break. Il y a même des mouvements stroboscopiques. Voilà, c'est plutôt du break, très peu de passage au sol acrobatique, on va dire, hein, pour du hip-hop, sachant qu'il y a des danseurs hip-hop, parce que le hip-hop c'est avant tout une danse de mecs. Et puis après il y a deux filles qui font du contemporain. On peut pas dire que l'écriture chorégraphique est exceptionnelle, hein, au niveau contemporain, enfin c'est pas pas très intéressant. Et puis quand à la danse Kathak, il y a cette danseuse Kathak
indienne, minimaliste hein, pour le moins,
très minimaliste,
comparé à Akram Khan par exemple.
Voilà, ouais, qui se contente de faire des tours sur elle-même. Voilà, bon, c'est pas très. Enfin, moi, je m'attendais à plus exubérant, mais bon, après le thème, c'est quand même la relation mère-fils, c'est l'espoir malgré une humanité assombrie, puisqu'il est question dans le deuxième mouvement de cette symphonie, enfin de la Shoah. Enfin voilà. Après, on retrouve l'espoir dans le troisième mouvement. Il y a, c'était quand même intéressant, hein, mais on aurait pu s'attendre à plus d'exubérance pour du hip-hop. Voilà.
Une pièce assez hivernale, j'ai trouvé. Mais tout à fait. Pleine d'émotions.
Pleine d'émotions. C'est ce qu'il recherche un peu. Il recherche souvent l'émotion dans la danse, et il aime bien suivre la musique. Voilà.
Donc, la musique de Gorecki n'y est pas pour rien, évidemment. Akram Khan aussi, on l'a vu, c'était assez magistral.
C'était merveilleux. Mmh. Enfin, tout simplement merveilleux. Alors après, c'est vrai que j'en ai discuté avec un critique de danser, puisque j'ai participé à la tribune des critiques vendredi, où lui, bien, il trouvait que c'était un peu trop pédagogique, hein, parce qu'il y avait cette première partie où finalement il était avec ses musiciens, et puis ben là on avait l'impression d'avoir un cours de danse Kathak, alors virtuose, hein, parce que il l'enseigne à tout le monde, la danse Kathak, enfin, c'est vraiment un des plus grands danseurs de cette danse. Alors il y a cette première partie, enfin, qui effectivement, où il est en solo, il répond avec la musique, alors avec des musiciens exceptionnels, et puis il y a cette japonaise, hein, qui joue du tambourin, qu'on voit sur scène, et qui dans la troisième pièce, parce qu'il y avait trois pièces, au bout d'un moment, fait un duo avec Akram Khan. Alors, ce duo est merveilleux. Enfin, moi, j'ai pas eu la sensation du temps dans ce duo.
C'était assez magique, en effet. Ouais.
Et c'était très élastique, avec des effets de lumière merveilleux, une musique très très prenante. Enfin, c'était moi, j'ai vraiment eu beaucoup 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 d'émotions à regarder ça.
Yoshie Sunahata qui chante même aussi bien qu'elle joue des percussions traditionnelles japonaises, et qu'elle danse dans la dernière partie de Gnosis, puisque voilà. C'est la pièce qui referme.
Alors ça, est-ce que ça va repasser? Je suis pas très certain. Contrairement à Teresa de Kersmaker, dont on a parlé en début d'émission, ça repasse à Nîmes. À Akram Khan, est-ce qu'il va repasser? Pas sûr, dans la région.
Et puis la paire, Cécilia Bengolea, François Chéniaud, qu'on a pu voir jeudi,
avec des godes.
Jeudi au studio Bagué avec leurs ustensiles. Voilà, une pièce assez étonnante qui a fait pas mal parler d'elle, qui a fait quelques-unes aussi de...
Mais vas-y, rappelle ce que c'était quand même.
Eh bien, c'était tout simplement des godes michés qui les entravaient d'une certaine manière pendant les deux bons tiers du spectacle. God Miché dont il joue, avec pas mal de dérision, un questionnement sur le corps, l'intériorité, l'extériorité, et ce qu'il faut montrer ou pas. Et ils s'en sortent plutôt pas mal. Une pièce très courte, comme était très courte encore plus même le Castor et Pollux, qu'on peut voir encore ce soir à l'Opéra Comédie à 18h et 20h de représentation. Jauge limitée, puisque le public est allongé sur la scène de l'Opéra Comédie, tandis que les deux danseurs sont suspendus dans l'espace scénique au-dessus de la scène, et que des machinistes les font voyager dans les airs de part et d'autre de la scène. Une pièce très très courte, donc Castor et Pollux, assez étonnante là encore, avec un François Chéniaud qui nous a fait un petit malaise à la fin de la représentation. On espère que ça ira mieux pour aujourd'hui, et puis on les retrouvera également dans la deuxième partie de la semaine, mercredi et jeudi, pour une troisième pièce. Ils présentent trois pièces cette année. C'est Sylphid, pour laquelle ils ont obtenu un prix, je ne sais plus lequel, mais bon, voilà, c'était l'une de leurs premières créations, où ils sont complètement entourés de latex et qu'ils respirent grâce à des petites pailles, nous dit-on.
Donc ils sont dans les expériences limites, proches du cirque, hein, parce que être suspendu dans les airs, c'est vraiment ça, quoi.
Voilà, quelque chose de circassien dans la... Et puis un attachement à la mythologie aussi, évidemment, Castor et Pollux. Et ce sera le cas aussi avec les Sylphides. Je crois qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Demain, eh bien, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Peut-être une interview de Raymond Nogueux, qui sera demain matin en conférence de presse à l'Agora, et dont on essaiera de recueillir le témoignage pour vous le diffuser dans cette émission. Merci Vincent.
Et bien, merci Manu.
À très bientôt sur cette antenne.
Et ne pas oublier que les auditeurs peuvent encore gagner une place, hein, pour le spectacle de Fabrice Ramalingon ce soir à 22h à l'Agora, 04 67 66 33 33. Thank you.